d'Amérique. Bienvenue au service francophone vers l'Afrique. Tous les soirs à 18h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le monde aujourd'hui, Chérubin Dorcil à Washington. Bienvenue à l'écoute de VOA Afrique. Les grands points de l'actualité. En Algérie, élimination par l'armée d'un terroriste responsable du meurtre de l'otage français Hervé Gourdel.
Deux autres islamistes ont été tués dans une opération distincte qui a eu lieu mardi près de Tizi Ouzou, d'après le ministère algérien de la Défense.
Côte d'Ivoire, nouvelle arrestation au sein du parti de l'ex-premier ministre Charles Konan Bani.
Les gens ont tendance à penser que la justice irait actionner.
D'Abidjan, on aura une analyse de Maurice Saïe. L'Ukraine abandonne la neutralité et fait un pas vers une adhésion à l'OTAN. Moscou exprime son désaccord. La Corée du Nord, de nouveau privée de connexion Internet. Est-ce en représailles à la piraterie contre Sony Pictures? Washington se refuse à tout commentaire. Et nous aurons comme d'habitude notre page économique, les sports et la musique. Mais d'abord, le journal. Des soldats des forces spéciales algériennes ont abattu le chef du groupe islamiste responsable de l'enlèvement et de la décapitation du touriste français Hervé Gourdel en septembre dernier. L'information a été confirmée ce mardi par le ministère algérien de la Défense dans un communiqué. Jacques Aristide.
Abdelmalek Gouri, chef de l'organisation des soldats du califat, qui a fait allégeance au groupe djihadiste État islamique, a été tué dans une embuscade près de Boumerdès, à une cinquantaine de kilomètres à l'est d'Alger. L'homme, connu également sous le nom de Khaled Abou Souleyman, était un des chefs d'Al-Qaïda au Maghreb islamique avant qu'il ne coupe les ponts avec Agmi pour soutenir l'État islamique. Gouri avait auparavant rejoint les milieux islamistes armés, dont le GIA, en Algérie lors du conflit avec l'armée qui a fait environ 200 000 morts. Deux autres islamistes ont été tués dans une opération distincte qui a eu lieu mardi près de Tizi Ouzou, d'après le ministère algérien de la Défense. Pour des observateurs, il s'agit d'un coup dur pour l'État islamique en Algérie. En 2014, les forces algériennes ont tué 110 militants islamistes, selon l'armée, et l'Algérie demeure un allié important des États-Unis dans la lutte contre les groupes armés dans la région.
En Côte d'Ivoire, un deuxième proche de l'ex-premier ministre ivoirien Charles Konan Bani, candidat à l'investiture de son parti pour la présidentielle de 2015, a été arrêté par la police économique. Arthur Aloko est accusé de blanchiment de capitaux pour un montant de 500 millions de francs CFA, environ 800 000 dollars. Un premier proche de M. Bani avait été convoqué vendredi et placé en détention pour un autre crime économique présumé. L'opinion publique à Abidjan pense à un règlement de compte politique. Maurice Saïe, économiste et analyste politique, offre une explication.
C'est le sentiment qu'on a, c'est le sentiment que certains ont, parce que ces derniers temps, il faut se rappeler, M. Bani, donc, est mis en cause, sont des proches, a déposé en tant que président de la CDVR, la Commission de réconciliation nationale, a déposé son rapport et surtout a rendu sa démission et s'est porté candidat à la candidature pour son parti. Aux élections prochaines, il faut se rappeler aussi que le président de son parti a fait un appel en faveur du président actuel, souhaitant que le parti ne présente pas de candidat en face. Donc, tous ces éléments mis ensemble, les gens ont tendance effectivement à penser que la justice serait actionnée.
L'économiste et analyste politique ivoirien Maurice Saïe est joint à Abidjan par Jean-Roger Bion. Toujours en Côte d'Ivoire, l'AFP rapporte une grève de faim de 151 prisonniers détenus pour des délits liés à la crise post-électorale de 2010-2011. Ils réclament leur libération provisoire. Selon un cadre pénitentiaire, ils ont été hospitalisés et leur cas n'est pas grave. La même source fait état de plus de 300 grévistes de la faim à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, la MACA. En octobre 2013, Doudou Dien, un expert onusien, avait appelé à la libération provisoire de tous les détenus de la crise, souvent emprisonnés depuis des années, sans que leur dossier n'avance. Nouveau tour de force des pirates écumant les eaux maritimes et fluviales du Nigeria. Ils ont détourné une canonnière dans l'état pétrolier de Bayelsa. Les précisions de Michel Joseph.
Selon le colonel Mustapha Anka, porte-parole militaire, la canonnière était en patrouille sur la rivière Santa Barbara, dans une zone où sévissent les pirates lorsqu'elle est tombée dans une embuscade. Les assaillants ont pris contrôle du bâtiment qu'ils ont emmené vers une destination inconnue. Trois soldats sont portés disparus depuis cette embuscade et des efforts se sont poursuivis aujourd'hui pour les retrouver. Au mois d'octobre, les pirates opérant sur cette même rivière ont attaqué l'escorte militaire d'une barge transportant du pétrole brut. Ils ont tué trois soldats et détourné une canonnière. Les pirates du Nigeria siphonnent du pétrole brut pour le revendre, de même qu'ils prennent des otages afin de les libérer contre rançon. La recrudescence de la piraterie dans le golfe de Guinée a atteint un niveau alarmant cette année. Les chefs d'État de la région, réunis à Yaoundé en juin 2013, avaient annoncé la création d'un centre de coordination interrégional contre la piraterie et des centres régionaux. Cependant, faute de moyens, l'initiative a du mal à fonctionner.
Un médecin égyptien et son épouse, tous deux coptes, ont été assassinés et leur fille âgée de 18 ans enlevée ce mardi dans leur résidence à Sirte, en Libye. C'est ce qu'annonce un responsable local cité par l'agence France-Presse. L'argent appartenant au docteur qui se trouvait sur une table près du lieu du crime et les bijoux de son épouse n'ont pas été touchés, dit le responsable, ce qui fait penser à un crime confessionnel. Le 24 février d'ailleurs, les corps de 7 chrétiens égyptiens tués par balles avaient été retrouvés près de Benghazi. Des dizaines de milliers d'Égyptiens travaillent en Libye, notamment dans les secteurs de la construction et de l'artisanat. Faisal Mohamed Ali, le chef présumé d'un vaste réseau de trafic d'ivoire au Kenya, a été arrêté en Tanzanie. L'homme figurait parmi les 9 personnes les plus recherchées au monde par Interpol pour crimes contre l'environnement. Bagasikoura.
Oui, la justice kenyane qui a publié l'information souligne que Faisal Mohamed Ali a été arrêté par des agents d'Interpol à Dar es Salaam lundi soir. Cet homme d'affaires de Mombasa avait été inculpé en juin dernier après la découverte dans un entrepôt de la ville de plus de 2 tonnes d'ivoire, dont 228 défenses d'éléphants entières. Deux de ses complices présumés avaient été arrêtés, mais Faisal Mohamed Ali, soupçonné d'être le chef du réseau, avait réussi à prendre la fuite. Interpol a lancé en octobre une vaste opération nommée InfraTerra, visant 139 suspects de crimes environnementaux en fuite. InfraTerra est la première opération d'Interpol ciblant des individus spécifiquement recherchés pour des crimes contre l'environnement.
En RDC, la veuve de Patrice Lumumba, le héros de l'indépendance congolaise et l'un des pères du panafricanisme, est morte dans son sommeil à Kinshasa, Eddy Issango.
Elle était récemment rentrée à Kinshasa des Paris où elle s'était rendue pour des soins. Pauline Opango Lumumba était restée discrète et à l'écart de toute activité politique depuis la mort de son mari en 1961. Âgée de 72 ans, elle était citée dans l'histoire du héros congolais en tant que destinataire des dernières lettres de celui-ci. Patrice Emery Lumumba écrivait à Pauline, mais s'adressait à la nation congolaise dans ce qui demeure son testament aux Congolais et aux Africains. Il les appelait à conserver précieusement l'indépendance acquise au prix du sang des martyrs, parmi lesquels il s'est compté déjà avant même d'être tué. Selon certains historiens, Patrice Lumumba a été capturé après avoir échappé de la résidence surveillée en 1961. Lumumba a dû ralentir à la traversée de la rivière Kwango et attendre Pauline qui était enceinte de son dernier fils. Dès là, Lumumba a été transféré dans les Katanga qui lui étaient hostiles et où il a été assassiné.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, le président tunisien sortant Moncef Marzouki a annoncé la création d'un mouvement visant à empêcher, dit-il, le retour de la dictature après la victoire à la présidentielle de Béji Caïd Essebsi. Reconnaissant néanmoins que le scrutin de dimanche a été libre, Marzouki a lancé un appel au calme et au maintien de l'unité nationale. Nouveau bilan de l'épidémie d'Ebola, le nombre de décès a maintenant dépassé 7500 sur près de 20 000 cas confirmés. Les derniers chiffres publiés lundi par l'OMS reflètent une baisse du taux de transmission du virus au Libéria et en Guinée, alors qu'il a augmenté en Sierra Leone. Des généraux africains et afghans ont visité le Pakistan pour discuter de leur coopération dans la lutte contre le terrorisme. Selon une déclaration de la Force internationale en Afghanistan, la rencontre tenue ce mardi à Islamabad portait sur la coordination militaire des deux côtés de la frontière. Elle intervient après le massacre de la semaine dernière à Peshawar, au Pakistan, où près de 150 élèves et enseignants ont été tués par les talibans. En Ukraine, le Parlement a voté à une majorité écrasante, 303 contre 8, en faveur de l'abandon du statut de pays non aligné. Un pas de plus donc vers une demande d'adhésion à l'OTAN. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Pavlo Klimkin, soutient que ce vote ouvre la voie à de nouveaux mécanismes permettant d'atteindre les objectifs d'intérêt national. Son homologue russe Sergei Lavrov, au contraire, qualifie la mesure de contre-productive, disant qu'elle ne fait qu'attiser la confrontation au lieu de résoudre la crise de l'Ukraine. Et la Corée du Nord était de nouveau privée de connexion Internet ce mardi, au lendemain d'une première coupure générale de réseau qui pourrait avoir été orchestrée en représailles à l'attaque informatique contre Sony Pictures. C'est du moins ce qu'affirme Dyn Research, une société américaine de cybersécurité, citée par l'AFP. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur la Voix de l'Amérique. L'actualité économique en Afrique et ailleurs, la Minute Éco, aujourd'hui avec Jean-Roger Bion. Bonsoir Jean-Roger.
Bonsoir Gabi, bonsoir à tous.
Croissance record pour l'économie américaine au troisième trimestre, c'est le taux le plus fort depuis 11 ans.
Le taux de croissance est à plus de 5% selon les données publiées aujourd'hui par le département du commerce, alors que les prévisions les plus optimistes situaient la croissance entre 3,5 et 3,9%. Cette embellie confirme une amélioration des fondamentaux de la première économie du monde. Cet indicateur a bien été accueilli par Wall Street qui a ouvert en hausse l'indice Dow Jones, passant pour la première fois à la barre des 18 000 points. Quant au dollar, il est à son niveau le plus haut depuis 8 ans et demi face à un panier des devises de référence.
Et les planteurs africains disent ne pas bénéficier de la chute des prix du pétrole, Jean-Roger.
Tous ceux qui tirent leurs revenus de la terre sur le continent se plaignent. Les chutes historiques des cours de l'or noir ont du mal à se répercuter sur les prix à la pompe, en dehors de l'Afrique du Sud qui fait exception à la règle. Les planteurs dénoncent la gourmandise des nombreux intermédiaires dans la filière pétrolière qui empocheraient d'énormes marges de bénéfices. Certaines devises comme celle de la Zambie ou de l'Ouganda sont trop faibles pour permettre de capitaliser la baisse des prix du pétrole sur le marché international.
Et parlons de la récolte du café. Elle est en baisse au Brésil.
La conséquence est que le Brésil risque de perdre la place de premier producteur et exportateur mondial de la graine noire. Les causes sont la sécheresse historique qui a frappé le sud du pays dans les premiers mois de 2014 et les gelées qui ont atteint l'état de Paraná dans le sud du pays où la récolte est en chute de 66,1%.
Et les autorités ivoiriennes ont fixé les tarifs pour le premier pont à péage dans la capitale ivoirienne.
Alors si vous allez à Abidjan et vous voulez aller de l'aéroport au quartier chic de Cocody via le nouveau pont Henri Konan-Bédier pour les véhicules de tourisme, vous aurez à payer 500 francs CFA, soit environ 1 dollar. Pour les véhicules de transport, 1500 francs CFA, soit 3 dollars. Et pour les poids lourds, 3000 francs CFA, soit 6 dollars.
Jean-Roger Bion, merci. Ce thème annonce toujours notre page sport, préparée et présentée ce soir par Bagassi Koura. Salut Bagassi.
Oui, bonsoir Chiroubin, bonsoir à tous.
Parlons de la CAN 2015, la Fédération ivoirienne de football a rejeté le budget proposé par le gouvernement pour cette compétition.
Voilà, une affaire d'argent, hein. Le budget de 310 millions de francs CFA alloué par le gouvernement pour la participation des éléphants à la CAN 2015 n'est vraisemblablement pas suffisant aux yeux de la FIF pour couvrir les dépenses.
Enfin, qu'est-ce qu'on peut faire avec 310 millions?
On joue en Afrique et souvent les choses sont moins chères qu'au Brésil. Et donc, devant la presse nationale, le premier vice-président de la fédération, Souri Diabaté, a été clair. Nous ne pouvons pas aller à la CAN avec 310 millions de francs CFA. Le ministère des Sports, lui, est disposé à verser 310 millions de francs CFA pour le budget prévisionnel de 3,5 milliards qu'il a présenté.
L'entraîneur des étalons du Burkina Faso, Paul Put, a donné une liste de 24 joueurs.
Oui, et sur cette liste de 24 joueurs, il y a le nom de Prédius Nakulma qui avait été écarté selon la presse locale. Mais il y a surtout le nom de Banu Diawara, 22 ans. Il est le seul joueur de champ qui est local. Il participera à sa première phase finale de CAN. Salif Kabore, vous êtes à Kourougou, Burkina Faso. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce joueur?
Il faut noter qu'il a été meilleur buteur du championnat de première division l'année passée. Donc aujourd'hui, Banu Diawara, même à la faveur de la dernière Super Coupe HSP disputée le dimanche dernier, il a été l'auteur, en tout cas, d'un des buts qui ayant permis au RCB de remporter cette 22e édition de la Super Coupe HSB. Ça peut vous dire que c'est un joueur, donc, au dents, bien long, qui est en train en tout cas de s'affirmer sur le plan national, et beaucoup estiment qu'il a sa place à l'équipe nationale aujourd'hui.
Alors merci Salif Kabore. Bagassi, en fait, les résultats de la NBA la nuit dernière?
Oui, Toronto, leader de la conférence Est, chute à Chicago 120-129. Tony Parker a permis à San Antonio Cherubin de renouer avec la victoire face aux Clippers de Los Angeles 124-118. Les Spurs redressent la barre après 4 défaites d'affilée à Charlotte. Denver s'incline 108-82. Autre défaite, celle de Portland à Houston 95-110.
Merci Bagassi Koura.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Chérubin Dorsil à votre compagnie pour cette édition du 23 décembre 2014. Place au dossier du jour. Les autorités camerounaises poursuivent leur enquête après l'arrestation la semaine dernière dans la localité de Guirvidik de 104 personnes soupçonnées de liens avec le groupe islamiste nigérian Boko Haram. Les suspects ont été acheminés à Maroua, la capitale de la région de l'extrême nord. Parmi eux, plusieurs jeunes enfants, apparemment élèves d'une école coranique. Pour un éclairage, Timothée Donangma est adjoint à Yaoundé, Gibaye Gitama, directeur de publication du journal L'Œil du Sahel.
Ces 104 personnes appartiennent à des nationalités différentes. Il y a des Nigériens, des Tchadiens et des Camerounais. Il y a des enfants, et il y a des mineurs, il y a des adultes. C'est le cas des enfants qui est préoccupant. Alors quand un enfant a 6 ans, qu'est-ce qu'on peut faire de lui alors qu'il a déjà commencé un endoctrinement? Donc il faut peut-être qu'il suive un processus particulier pour pouvoir le réinsérer dans la société. Mais tout cela ne peut se faire qu'en accord avec les autres pays pour voir s'il y a des traités d'extradition. Et au Cameroun, s'il y a des mécanismes de réinsertion des enfants, on peut dire à partir terroriste. Donc c'est un phénomène nouveau auquel, jusqu'ici, le Cameroun n'avait pas été confronté. Les enfants de 6 ans, 7 ans qui s'engagent dans le terrorisme, bon, c'est un phénomène nouveau et je pense que c'est un grand défi pour le gouvernement.
Qu'en est-il des adultes qui encadrent ces enfants?
Écoutez, les adultes, pour l'instant, font l'objet d'une enquête approfondie, comme les enfants aussi. Ils vont répondre devant les lois du Cameroun. Sur ce point, il n'y a pas de problème. Si l'enquête démontre qu'ils sont impliqués dans certains éléments de l'escroc aujourd'hui, ils vont devoir répondre devant les lois et en subir les conséquences.
Est-ce qu'aujourd'hui, on a des éléments concrets les liant à Boko Haram?
Selon ce que j'ai appris, en ce moment, il y a des personnes, des adultes qui ont reconnu leur appartenance et il y aurait même des images très, très dures retrouvées sur le téléphone portable de certains adultes où eux-mêmes, voilà, ils se mettaient en exergue et ils commettaient des crimes qui sont aussi très difficiles à regarder. Donc ça, ce sont les premières informations que j'ai reçues. Maintenant, on attend de voir. Il y aura sans doute un procès et puis voilà.
Et toutes ces personnes étaient regroupées dans une concession de la localité de Guirvidi. Quelle était leur relation avec la communauté locale?
Ce que nous avons appris, c'était des personnes totalement à marge, qui vivaient recluses, qui n'attiraient pas beaucoup l'attention parce que finalement, quand vous avez une école ou un regroupement de cette nature, les enfants sont cherchés à manger pour pouvoir amener à la communauté. Mais c'était des gens qui étaient recluses. Bon, il faut aussi voir que Guirvidi est une bourgade de Maga et la concession était aussi plus ou moins reculée, que ça pouvait les laisser le champ libre à toute forme de travail.
C'était le directeur de publication du journal L'Œil du Sahel, Gibaye Gatama, joint à Yaoundé.
La Voix de l'Amérique au Cameroun sur Océan FM à Douala, Limbé et Kumba. La Voix de l'Amérique sur Radio Batcham à Bafoussam.
Il y a 2 semaines, les autorités maliennes ont libéré 4 terroristes, dont Mohamed Ali Wadoussen, qui était incarcéré à la prison centrale de Bamako. Après ces libérations, la polémique est toujours entretenue par les autorités qui tentent de se justifier. Devant la presse, hier à Bamako, le ministre de la Justice a fait savoir que les 4 terroristes ont été libérés pour sauver la vie de l'otage français Serge Lazarevitch, mais aussi en guise de reconnaissance à la France. Cette déclaration n'a pas été bien accueillie par les populations maliennes, nous dit notre correspondant Kassim Traoré.
Sur les théâtres d'opération au Mali, pour ne pas dire dans les régions nord, la seule menace qui existe demeure le terrorisme. Et les soldats maliens et étrangers ne les cachent à personne, comme nous l'explique ce chef des casques bleus des Nations Unies basé à Gao.
Ces terroristes-là, d'abord, ils bénéficient d'une grande complicité de la population. Certains volontairement, d'autres involontairement. Vous savez que les gens, ils peuvent les corrompre même avec les finances pour les amener à... Et puis ces gens-là, ils ne respectent pas les règles élémentaires des droits de l'homme. Nous nous sommes tenus de respecter les conventions internationales. Eux, ils ne respectent rien. Une fois, ils se transforment donc souvent en éleveurs ou ils posent des mines. Souvent, ils recrutent même des enfants ou des femmes. Donc, c'est très difficile de combattre.
Les Maliens connaissent aussi la force de frappe des terroristes car ils ont occupé un bon moment les régions nord du Mali. D'après eux, le gouvernement malien ne devrait pas libérer des terroristes qui ont été arrêtés au moment de la libération de ces régions.
Moi, je me demande pourquoi libérer 3 terroristes contre un Français. C'est pas normal, c'est parce qu'il y a un manque d'autorité.
La libération de Wadi Sen, moi, je n'ai pas trop bien compris. Parce que lui, il a tiré sur des gens, sur des militaires. Et il y a eu même des victimes. Donc, il ne doit pas rester impuni. On comprend par ce tact-là que ça a été un échange. Ce n'est pas bon pour notre nation.
Les cas du terroriste Mohamed Ali Wadi Sen dépassent tous les commentaires. Car en plus d'être un terroriste, il a tué un surveillant de prison au moment de son évasion de la prison centrale de Bamako, d'où la colère des surveillants de prison.
L'incompréhension, l'indignation, l'effondrement, vraiment les mots me manquent. Les mots me manquent, nous on ne comprend pas du tout. On ne comprend pas du tout que l'assassin de notre collègue Kola Sofara ici, que je nomme, soit libéré. Aujourd'hui, il peut aller là où il veut. Mais la famille de Kola est là. Vous savez, aucune somme ne peut être donnée à quelqu'un pour aller se donner la mort. Aucune somme.
Le président de la République avait rencontré et rassuré la famille du surveillant de prison assassiné par Wadi Sen. Pour le moment, c'est le ministre Mohamed Ali Bachidi qui justifie la libération des terroristes. D'après le ministre de la Justice, c'est pour l'honneur du Mali qu'ils ont été libérés. Et cela en guise de reconnaissance envers la France.
Aucune personne du Quai d'Orsay ne m'a suggéré quoi que ce soit. J'ai pas l'habitude de céder comme ça au point de vue d'autrui. Le Quai d'Orsay, c'est juste un partenaire au Mali. Mon entendement est que jamais la lutte contre le terrorisme ne s'est arrêtée. Quels que soient les moments d'échec, de demi-échec, la lutte continuera au Mali et ailleurs dans le monde. Et d'ailleurs, ils n'ont pas de frontières. Tout comme ils n'ont pas de frontières, la traque aussi n'a pas de frontières.
Les terroristes libérés sont déjà informés par les autorités maliennes qu'ils seront traqués. Cette déclaration a créé d'autres confusions au sein de l'opinion nationale. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, 24 heures sur 24, à Bamako, sur 102 FM.
Cap maintenant sur l'Angola, où environ 3000 étrangers ont été arrêtés dans les rues de Luanda et placés en détention au centre de Trinita, près de la capitale. C'est dans le cadre d'une opération lancée par la police angolaise pour lutter contre l'immigration clandestine. Les personnes appréhendées sont notamment d'origine asiatique, européenne, africaine et latino-américaine. Un grand nombre de Congolais sans papiers ont été expulsés. En réaction, le principal parti d'opposition, Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, UNITA, dit suivre la situation de près pour mieux comprendre les enjeux avant d'afficher une position politique. Jacques Aristide s'est entretenu avec le porte-parole et secrétaire aux affaires étrangères de l'UNITA, le député Alcides Sakala.
Nous sommes aussi en train de suivre cette situation. Ce que nous savons, c'est que le gouvernement essaye un peu de contrôler les étrangers qui sont partout dans les pays et sans papier. Nous sommes en train de recueillir un peu plus d'informations pour qu'on puisse avoir une idée plus objective de cette situation.
Mais d'après des témoignages, la majorité des étrangers sont arrêtés même s'ils ont des papiers en règle. Avez-vous entendu de tels témoignages?
Voilà, c'est ça le problème, parce qu'il y a ici des citoyens africains qui sont du Mali, qui sont du Sénégal, qui sont un peu partout, ils viennent un peu partout de l'Afrique. Donc, aux citoyens africains, ils sont en Angola depuis des années, hein, même avant la fin de la guerre, la plupart de ces gens-là, ils étaient déjà dans le pays. La perspective du gouvernement vis-à-vis cette situation qui cherche maintenant à forcer un peu cette situation de contrôle et des étrangers.
Selon les mêmes témoignages, les conditions dans le centre de rétention de Trinidad sont pratiquement inhumaines et un grand nombre de personnes arrêtées se plaignent de rackets de la part des policiers. Êtes-vous au courant de cette situation?
Absolument. Ça, c'est normal ici en Angola. C'est un pays qui viole. Nous avons un système au pouvoir qui viole systématiquement les droits de l'homme, soit des Angolais, et soit des concitoyens africains qui sont ici, la plupart pour des raisons économiques. C'est pour cela que nous avions déjà eu un débat au niveau de la Commission des affaires étrangères et du Parlement angolais, et pour qu'on puisse mieux comprendre cette dimension de ces problèmes-là. Et nous sommes mis d'accord qu'il y a beaucoup de ces réfugiés qui sont plutôt des réfugiés économiques.
Et il semblerait que Luanda est pratiquement paralysée parce qu'il y a beaucoup de travailleurs étrangers qui ne veulent pas se rendre au travail maintenant à cause de cette situation.
On n'a pas beaucoup de détails, comme je disais, mais à part les Africains, nous avons aussi beaucoup de Chinois qui sont un peu aussi partout dans le pays. Et la plupart, ils n'ont pas aussi des papiers. Voilà, mais c'est un problème qui existe, c'est une situation réelle et objective. Nous sommes en train de suivre avec beaucoup d'attention.
Certains accusent les Angolais de provocation à caractère racial. Les autorités ont-elles réagi à de telles accusations?
Nous avons aussi des informations vis-à-vis de ce comportement. Quelques-uns appellent ça des racismes et les autres non. Mais c'est une situation concrète. Parce que les étrangers sont des victimes de cette situation.
Le député Alcides Sakala, porte-parole et secrétaire aux affaires étrangères de l'UNITA, joint à Luanda.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos. Et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Au moins 60 journalistes ont été tués dans le monde en 2014 en raison de leur travail. En 2013, ils étaient 70. C'est le bilan que dresse la CPJ, le Comité pour la protection des journalistes basé à New York. La Syrie reste le pays le plus dangereux pour la troisième année consécutive, selon l'organisation. Au moins 17 journalistes y ont trouvé la mort cette année. En Afrique, la RCA est l'un des pays les plus dangereux pour les hommes et femmes de presse. C'est ce que nous dit Mathurin Momé, directeur du journal Le Confident.
2014 a été une année sombre pour la presse centrafricaine. Bon, pour ce qui concerne l'assassinat des journalistes, on a enregistré 3 cas, notamment le cas de la consoeur Elisabeth Olofio, qui travaille à Radio Perso, une radio confessionnelle à Bambari. Le cas de René Padou, qui travaille dans une radio confessionnelle, Radio Jericho. Et le cas de Désiré Païenga, qui travaille au quotidien Le Démocrate.
Et puis il y a aussi Camille Lepage, voilà. La photographe française qui a été tuée dans la région de Boire, à l'ouest.
Voilà, effectivement. Elle a aussi été assassinée dans le cadre de l'accomplissement de sa mission par les Zoulous, en tout cas la guerre.
Est-ce que la justice a pu retrouver le coupable?
Mais vous savez, ici chez nous, la justice consiste pour le parquet à ouvrir des enquêtes, et parfois même ces enquêtes ne sont pas fermées, on ne rend même pas public les résultats de ces enquêtes. Ceci a amené l'Union des journalistes de Centrafrique à organiser une marche de protestation contre toutes les exactions subies par les journalistes dans l'exercice de leur profession, et à déposer un mémorandum à la MINUSCA.
Mathurin Momé, directeur du journal Le Confident, joint par Bagasikoura. Et comme chaque soir, on va se quitter en musique avec Roger Montou. Roger, qu'est-ce que tu nous réserves ce soir?
Salut Gabi, qu'est-ce que je vous réserve ce soir? C'est Jocelyne Berroar, membre du groupe de Zouk Kassav et popularisé dans l'Hexagone à la fin des années 80 grâce à son duo avec Philippe Laville, Collé Serré. Et bien sûr, ma chanson préférée d'elle, Siwo. Siwo. Jocelyne Berroir, membre du groupe CASAV depuis 1983, après avoir réalisé des chœurs sur le second album de la formation et interprété un seul titre, Soleil, s'est produit à l'Olympia en solo il y a de cela 3 ans. C'était à l'occasion pour la chanteuse, aujourd'hui âgée de 59 ans, de réinterpréter son tube enregistré avec Philippe Laville à la fin des années 80, collé serré, et montrer à ses fans qu'elle a encore de la musique dans le sang, Gabi. Voilà Gabi, c'était la belle Jocelyne Berroir dans Seawolf.
Et bien sûr, Roger Monto sera en votre compagnie à 20h temps universel dans le RM Show. C'est la fin de cette édition du Monde Aujourd'hui, mise en onde par Joselle Morissin, avec l'assistance technique de Micha Dubinsky. Ici, Gabi Dorsil.